Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le piège des prêts dits toxiques devant la justice aujourd'hui. Près de 1600 personnes se sont portées partie civile contre le prêt dit Helvet Immo d'une filiale de BNP Paribas. Avant le début du procès, nous vous raconterons l'affaire. Le deuxième forum pour la paix débute aujourd'hui à Paris. Il est inauguré par Emmanuel Macron ce matin. Mais peu de dirigeants étrangers ont fait le déplacement, vous l'entendrez. Et puis dans ce journal, nous irons en Irak où les manifestations se poursuivent, la répression policière également. La représentante de l'ONU à Bagdad a publié hier une feuille de route pour une sortie de crise possible. C'est le premier procès de cette ampleur pour la première banque française. La BNP Paribas est poursuivie pour pratique commerciale trompeuse. Elle est jugée à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Il s'agit plus exactement de sa filiale BNP Personnel Finance. 1643 personnes se sont portées partie civile dans cette affaire, ainsi que deux associations de consommateurs. Elle s'estime en fait victime d'un crédit immobilier indexé sur le franc suisse, c'est-à-dire soumis aux variations des taux de change, sans en avoir eu connaissance. Les précisions d'Anne Lorchouin.
Les emprunteurs floués attendaient depuis longtemps que l'affaire soit portée au pénal. Depuis 10 ans, elles remboursent en effet un crédit immobilier qu'elles ont bien peur d'avoir à rembourser pour le restant de leur vie. Appelé Helvet Immo, il est indexé sur le franc suisse et a été vendu pendant 2 ans par la filiale BNP Personal Finance de la BNP, plus connue sous le nom de CTLM. Les conseillers proposaient ce produit à des particuliers désireux d'investir dans l'immobilier pour bénéficier de défiscalisations type loi Cellier ou Robien, et en leur promettant une sécurité garantie basée sur la stabilité du franc suisse. Stabilité qui s'est démentie après la crise de 2008. Le cours du franc suisse n'a fait que grimper par rapport à l'euro. La somme à rembourser a donc augmenté elle aussi, amenant à des situations parfois catastrophiques de personnes saisies sur salaire pour rembourser un capital restant dû plus important que la somme empruntée au départ, et ce, après 10 ans de remboursement. Or, ce risque, estiment les parties civiles, a été parfaitement caché par la banque. Brice Gay, membre du collectif des victimes d'Helvet Immo, estime que la tenue de ce procès est une première victoire.
Ce sera l'occasion de montrer que ces informations que les victimes ont reçues étaient fausses et de nature à les induire en erreur. Et dans un deuxième temps, montrer également que la banque a vendu délibérément ses prêts en ayant conscience que leur client emprunteur allait s'endetter tôt ou tard.
La BNP, de son côté, nie qu'il y ait eu volonté de tromper, mais aujourd'hui, ce type de prêt indexé sur une devise étrangère est interdit par la loi. Enfin, l'amende encourue par la banque n'est pas très importante, mais si les victimes obtiennent indemnisation, les sommes en jeu pourraient être bien plus conséquentes.
Ce procès doit durer jusqu'au 29 novembre. L'enquête réalisée par Anne Lorchouin sur Helvet Immo est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Il s'agit du 131e féminicide depuis le début de l'année en France. Une femme a été mortellement poignardée par son mari dans le Bas-Rhin dimanche soir. La victime qui souhaitait divorcer avait déposé une main courante et une plainte contre son époux pour des faits de violence. Cet homme de 58 ans a été placé en garde à vue. La mission d'information parlementaire sur le glyphosate publie aujourd'hui son rapport d'étape, un document que nous évoquions hier sur France Culture. Au 1er janvier 2021, la plupart des filières devront avoir supprimé le glyphosate, mais on ne sait pas encore lesquelles. La mission demande donc au gouvernement de clarifier ce point pour que les agriculteurs puissent se séparer dans des délais réalistes du glyphosate. Au-delà, il faut surtout que l'exécutif impulse une dynamique. C'est ce que réclame le député du Maine-et-Loire, ancien député de la majorité, Mathieu Orphelin. Il est membre de cette mission d'information.
Pour l'instant, l'engagement très fort qui avait été pris de sortir du glyphosate pour les principaux usages, quand les alternatives existent, sans laisser aucun agriculteur sans solution. Pour l'instant, cet engagement n'est pas en passe d'être tenu. D'ailleurs, on a même du mal à mesurer les avancées, puisqu'on montre dans le rapport que nous n'avons même pas eu accès aux quantités de glyphosate utilisées en 2018, ni leur répartition par usage. Donc effectivement, c'est très important aujourd'hui que l'État renforce son pilotage et bien sûr qu'on aide les agriculteurs par du soutien renforcé, par des aides à l'investissement, par du partage de pratiques, parce qu'effectivement, souvent, il y a un certain nombre de difficultés, il peut y avoir des surcoûts transitoires aussi, et donc il faut absolument qu'on puisse aider plus qu'aujourd'hui et mobiliser l'ensemble des acteurs qui a cette phase de transition, qui qu'il faut organiser et renforcer. Et je crois que c'est une des grandes conclusions, un des grands messages que la mission parlementaire envoie au gouvernement.
C'était le député Mathieu Orphelin interrogé par Anne-Laure Jumet. Après le séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter en Ardèche hier, l'heure est ce matin à l'inspection des centrales nucléaires de la région. Au nord de Montélimar, la centrale de Cruas est à l'arrêt en ce moment. Je précise par ailleurs que le séisme a fait hier 4 blessés, dont un grave. Ce matin, les établissements scolaires de la commune du Teil sont fermés. Près de 200 maisons ont été touchées. Certaines ont été détruites dans le séisme. Une trentaine de chefs d'État ou de gouvernement sont attendus ce matin à la Grande Halle de la Villette à Paris pour le deuxième forum de Paris pour la paix. Un événement qui tente de promouvoir des échanges entre les États, des organisations internationales et la société civile. Ce forum sera ouvert ce matin par Emmanuel Macron en compagnie de la présidente désignée de la nouvelle Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du vice-président chinois. Voilà pour les grandes têtes d'affiche de ce forum qui, finalement, a bien du mal à fédérer Bertrand Galichet.
Un an après son lancement, le Forum de Paris tente de se réinventer malgré l'absence de la plupart des dirigeants des grandes puissances. Les États-Unis ne sont pas représentés au niveau politique. La Russie et l'Inde ont seulement dépêché leur ministre des Affaires étrangères, de même que l'Allemagne et beaucoup d'autres pays européens. Les Africains, en revanche, viennent en nombre, ainsi que les organisations internationales. De quoi donner à ce Forum de Paris un côté non aligné. Les organisateurs espèrent contribuer à la paix face à une gouvernance mondiale souvent déficiente. Ce rendez-vous atypique veut impliquer la société dans les grands enjeux du moment, comme le réchauffement climatique ou l'intelligence artificielle. Des fondations, des entreprises privées ou des agences de développement financent 90% des 6 millions d'euros que coûte l'organisation du forum. En coulisses, le sommet peut aussi favoriser des discussions entre États sur des sujets brûlants, par exemple sur l'OTAN, après les déclarations choc d'Emmanuel Macron.
Pillage, affrontement, barricade. La Bolivie a plongé dans le chaos hier quelques heures après la démission du président Evo Morales. Le désormais ancien dirigeant de la Bolivie dit être en route en ce moment pour le Mexique où il a obtenu l'asile politique. L'opposition lui reproche une fraude électorale lors de la dernière présidentielle. En Irak, la contestation contre le pouvoir en place, elle, se poursuit à Bagdad et dans le sud du pays. Ces derniers jours ont été marqués par des scènes de violence ayant causé la mort de plusieurs personnes au total, selon les chiffres officiels. Près de 320 personnes sont mortes depuis le début de la contestation début octobre. L'ONU a haussé le ton ces derniers jours et publié une feuille de route pour venir à bout de cette crise, Lucille Wasserman.
Un climat de colère et de peur s'est installé dans le pays. C'est par ces mots que Janine Ennis Plescaert, la chef de la mission d'assistance de l'ONU en Irak, a introduit sa feuille de route destinée au gouvernement irakien. Elle demande aux autorités de prendre des mesures immédiates comme la libération de tous les manifestants pacifiques détenus à ce jour ou encore l'ouverture de plusieurs enquêtes pour faire la lumière sur les assassinats de manifestants. Sur le moyen terme, elle réclame enfin des réformes électorales et des changements constitutionnels. Une vingtaine de demandes au total soutenues par la plus haute autorité religieuse du pays, Ali Sistani, avec qui cette représentante de l'ONU s'est entretenue ce lundi. Celui qui exerce une influence considérable sur l'opinion publique irakienne à majorité chiite a toutefois exprimé ses réserves et ses doutes sur la capacité du gouvernement à conduire des réformes sérieuses, a-t-il dit. Depuis le début de la contestation, Ali Sistani a régulièrement condamné les violences et pointé du doigt les autorités dans la gestion des manifestations, mais n'a jamais retiré jusqu'ici sa confiance à Abdul Abdelmahdi, le premier ministre irakien. Reste que pour les manifestants, ces mesures et ces réformes ne sont pas suffisantes. Ils disent vouloir manifester jusqu'à la chute du régime et jusqu'au départ de tous les hommes politiques actuellement au pouvoir.
Eux manifestent pour plus de démocratie et contre le régime de Pékin. À Hong Kong, les rassemblements se poursuivent et les affrontements violents avec la police également. Police qui a fait usage hier de gaz lacrymogène sur le campus d'une université. Disney lance sa plateforme de vidéos en ligne ce mardi aux États-Unis, 12 jours après celle d'Apple. Les deux géants veulent concurrencer Netflix, leader sur le marché. Et nous reviendrons sur cette bataille du streaming, de la diffusion en ligne, lors du journal de 7h tout à l'heure. La météo de ce mardi, c'est assez simple, encore des nuages et des averses sur une grande partie du pays. Il fera beau en revanche sur le sud-est. Comptez 7 degrés à Lille et à Besançon ce matin, 9 à Paris et Lyon, 16 degrés à Nice.